Je me méfie de quelque chose, ce que j'appelle moi le pouvoir de l'oubli. C'est-à-dire que ce que j'ai pu observer sur d'autres recherches suite à des catastrophes, de tout ordre d'ailleurs, c'est qu'en fait, il y a une espèce de fenêtre d'opportunité de 2 à 3 mois qui fait que finalement, les gens, en fait, ils sont prêts à changer leurs pratiques, qu'ils perçoivent leur environnement ou leurs rapports sociaux différemment. Mais une fois que ces 2-3 mois sont passés, finalement, on revient un peu à un état initial et on oublie. Donc, ce pouvoir de l'oubli.
Bienvenue dans Enquête d'humanité, le podcast de la Fondation Croix-Rouge française dédié à la recherche humanitaire et sociale. Crise sanitaire et délitement du lien social, changement climatique et catastrophe, exclusion, exil et accueil à travers les territoires, le 21e siècle nous apporte son lot de défis à relever. Des enjeux majeurs que nous vous proposons ici d'explorer avec celles et ceux qui au quotidien y répondent. Ce sont les chercheuses et chercheurs en sciences sociales. Des rencontres authentiques et éclairantes, présentées par Vincent Léger. Bonne écoute.
Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aude Sturma, sociologue de l'environnement et ingénieure de recherche au CNRS à la Maison des sciences de l'homme de Toulouse. Avec le soutien de l'Agence régionale de santé de Mayotte, de l'Agence française de développement, de la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien de la Croix-Rouge française, la PIROI, et enfin de la Fondation Croix-Rouge française, vous avez conduit au dans 2020 une recherche sur la vulnérabilité sociale au risque de pollution de l'eau dans un quartier précaire de Mayotte. Cette île, petit département d'outre-mer de 374 km² situé dans le canal du Mozambique, fait face à des risques sanitaires et environnementaux importants. Parmi eux, le risque lié à la pollution de l'eau est majeur. Une part importante de la population n'a pas d'eau courante et chaque année, Santé publique France révèle des cas de fièvre typhoïde. S'il existe une surveillance épidémiologique et une volonté institutionnelle de réduire le risque épidémique à Mayotte, son opérationnalisation ne semble pas encore efficiente. Aussi, la promotion de la santé en vue de la réduction des inégalités sociales de santé par l'accès à l'eau pour tous pâtit d'un manque de données sociales de terrain, notamment pour l'identification des diverses formes de gestion sociale de l'eau. Dans ce contexte, votre recherche, Aude, a consisté à examiner ce qui conditionne la vulnérabilité sociale face au risque de pollution de l'eau, à la fois sous l'angle structurel, l'accès à l'eau, les conditions de vie, la précarité économique, et sous l'angle des pratiques liées à l'eau et des représentations du risque épidémique qui en découle. Votre objectif a été de contribuer à améliorer finalement les capacités de la population locale et des acteurs de santé à faire face à ce risque, en vous intéressant notamment aux ressorts communautaires liés à la gestion sociale de l'eau et en interrogeant les possibilités de mise en place de campagnes de sensibilisation à leur destination. Alors pouvez-vous me présenter rapidement votre formation et les différentes étapes de votre carrière professionnelle qui vous ont mené à votre poste actuel ?
Bonjour. Alors pour revenir rapidement sur mes études, j'ai fait une licence de socio-économie en sociologie, donc à Toulouse, ça s'entend avec mon accent, un master de sciences politiques et une maîtrise qui s'appelait systémique complexe appliquée au territoire, en fait, qui m'a initié un petit peu à la pensée d'Edgar Morin, c'est-à-dire à la pensée complexe. Et suite à ça, j'ai travaillé pendant 1 an comme vacataire au CNRS sur différents sujets en lien avec la sociologie et l'environnement sur différents terrains. Et ce travail-là m'a amené aussi à rentrer dans la question de Mayotte. J'ai posé un sujet de thèse qui a été financé, où je m'intéressais justement à la mise en place de la gestion de l'eau dans ce contexte insulaire, en pensant aussi à la question du changement social, en fait, et des questions liées au risque et à l'environnement, à la santé, avec une velléité pour les questions de transition. Et suite à ça, en fait, j'ai mené des recherches postdoctorales dans différents laboratoires de recherche. Et en parallèle, en fait, j'ai été sollicitée par mes terrains, par plutôt des associations, des ONG. Et donc là, je me suis constituée en chercheur indépendante pour répondre à des questions des acteurs de terrain, toujours sur les problématiques donc liées à l'eau. Ce qui a mené aujourd'hui à être à la Maison des sciences de l'homme et des sociétés de Toulouse, justement sur le laboratoire des transitions, pour penser ces fameuses transitions auxquelles on va devoir faire face dans les prochaines années.
Alors, vous êtes sociologue de l'environnement. En quoi consiste ce métier de sociologue de l'environnement exactement? Et par exemple, quand vous êtes sur le terrain, comment expliquez-vous en quoi consiste votre métier aux personnes que vous rencontrez?
Oui, alors, je suis avant tout sociologue. Et en fait, finalement, je m'intéresse à l'objet environnement, alors plutôt l'eau pour ces dernières années. C'est vrai qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé ma thèse et que je travaillais au syndicat des eaux de Mayotte, notamment, qui finançait une partie de ma thèse, on voyait pas trop ce qu'un sociologue faisait là sur la question de l'eau. Et puis ben maintenant, je pense que qu'on le voit mieux avec ce qui se passe notamment aussi en métropole, hein, mettre à jour les rapports de force, je pense à la question des bassines, à la question de la sécheresse. Hein, donc, comment moi je l'explique sur le terrain, c'est que l'idée c'est un peu de déjà faire voir l'invisible, permettre aussi de contextualiser, que ça soit les enjeux des acteurs, les rapports de force comme je disais tout à l'heure, mais aussi déconstruire en fait des présupposés que tout un chacun peut avoir.
Donc, quels sont selon vous les principaux mérites et acquis que nous devons à l'approche sociologique de ces enjeux sanitaires et de gestion de l'eau ?
Alors, comme je l'ai évoqué, c'est déjà rendre compte des publics invisibles. Par exemple, sur le sujet du contexte sanitaire ou des épidémies, on se rend de plus en plus compte, finalement, que l'épidémie ne s'arrête pas à la question du statut social. Et l'idée, c'est aussi de déconstruire les perceptions que peuvent avoir certains acteurs de santé, des publics vulnérables. Par exemple, au cours de ma thèse, j'ai montré que les personnes âgées, souvent, elles sont perçues comme les personnes les plus vulnérables, les plus en difficulté. Et en fait, ce que ma recherche avait montré à l'époque, c'est qu'en fait, on passait sous silence tout le savoir expérientiel, en fait. L'expérience de la maladie qui permet de repérer, par exemple, plus facilement le symptôme, de plus facilement le nommer, et donc d'opter pour des stratégies de soins qui vont révéler d'une capacité à faire face. Par exemple, en mélangeant ce qu'on peut appeler pharmacopée locale et médecine allopathique. Pour la recherche que j'ai menée pour la Fondation Croix-Rouge, donc ce projet Vulnéo, il y avait aussi des idées qui pouvaient être déconstruites. Donc je pense à la santé communautaire, on y viendra tout à l'heure. Mais par exemple, il y avait les épidémiologues de l'Agence régionale de santé et de Santé publique France qui observaient qu'il y avait finalement peu de consultations médicales par rapport aux maladies hydriques et que la population finalement se rebellait peu par rapport à la situation de précarité dans laquelle elle était. Et donc derrière, il y avait l'hypothèse plutôt que les gens auraient développé une immunité en fait à la maladie. Et en fait, ce que ma recherche elle a montré, c'est plutôt qu'en fait, il y a une banalité des symptômes, alors notamment de la diarrhée. Et c'est pas le fait d'être malade et de tomber malade qui va déclencher. C'est par exemple le fait d'avoir de la fièvre. C'est aussi parce qu'il y a une hiérarchisation des risques qui n'est pas la même que pour les acteurs de santé. Donc déconstruire ces présupposés, en fait, ça permet de mettre à jour en fait les logiques des acteurs et les processus de légitimation de leur action. Il y a des logiques d'appropriation des dispositifs, de résistance aux dispositifs, qui, si elles ne sont pas mises à jour, en fait, peuvent avoir des effets totalement contraires, je pense notamment en termes de politique publique.
Alors, quel était le constat de départ qui a été à l'origine de la recherche que vous avez menée avec le soutien de la Fondation Croix-Rouge française ?
Alors, au départ, en fait, l'Agence régionale de santé et Santé publique France avaient monté un réseau de surveillance épidémique, mais notamment, il y avait beaucoup de cas de fièvre typhoïde dans certains quartiers de Mayotte, mais ils n'arrivaient pas à endiguer, en fait, ces foyers. Et donc, cette difficulté-là a été un petit peu le départ, en fait, de la réflexion à cette recherche-là.
Et quels en étaient les principaux objectifs, les principales questions ?
En fait, la première question, c'était de se demander comment on pouvait améliorer les capacités à faire face à la fois des acteurs institutionnels de santé, des acteurs associatifs et des ONG, mais aussi des populations. Et derrière, il y avait différents objectifs, c'est-à-dire caractériser un peu la gestion sociale de l'eau, comment ça se passe concrètement pour les gens quand ils ont accès à l'eau ou quand ils n'ont pas accès à l'eau, comment ils perçoivent leur maladie par exemple, comment ils perçoivent leur environnement, quelles sont leurs stratégies pour utiliser l'eau, pour la traiter. Mais il y avait aussi un objectif de qualifier un peu les ressorts communautaires pour regarder si c'était possible de passer par ces ressorts communautaires pour faire de la promotion de la santé. Donc l'idée, c'était d'identifier les ressorts et de regarder s'ils pouvaient être des supports de sensibilisation. En fait, il y avait un dernier objectif qui était aussi de produire des recommandations sur des axes de sensibilisation en fonction des différents publics qu'on peut trouver chez les habitants de Mayotte.
Dans votre recherche, vous parlez de vulnérabilité sociale au risque de pollution de l'eau.
Oui, alors je peux la définir, je la définis assez simplement en fait. Hein, pour l'opérationnaliser en fait, c'est une façon de trouver un langage commun, à la fois d'un point de vue académique, mais aussi pour pouvoir dialoguer avec les acteurs de terrain. Donc la vulnérabilité sociale, je la définis comme la capacité insuffisante à faire face à un risque. Donc, pour moi, là, ici, c'est le risque lié aux pollutions de l'eau, donc le risque notamment sanitaire. Et après, j'y vois deux formes. Je vois une forme de vulnérabilité sociale initiale, structurelle, qui va s'observer à travers des indicateurs statistiques, taux de pauvreté, conditions d'accès à l'eau, type d'habitat. Et puis, je vois une seconde forme de vulnérabilité sociale que j'appelle vulnérabilité sociale secondaire, et qui là est plutôt le résultat de l'ensemble des représentations et des pratiques liées à l'environnement et qui vont venir, qui vont impliquer des comportements plus ou moins à risque ou au contraire des stratégies de soins adaptées qui vont venir voilà, se rajouter à cette première forme de vulnérabilité.
Parlez-moi de la zone géographique de votre recherche, Mayotte, le département le plus pauvre de France, du quartier urbain densément peuplé de la commune de Kungu et de sa population. Quelles en sont les spécificités? Pourquoi avoir choisi ce quartier d'ailleurs?
Alors, ce quartier, ça, c'est le quartier Kherson, donc à Kungu. Déjà, j'ai pas choisi ce quartier toute seule, en fait. Ça fait l'objet de réflexions et d'échanges assez réguliers avec une petite cellule qui s'était montée à l'ARS avec notamment le concours aussi de Santé publique France sur les maladies hydriques. Et donc, en fait, j'ai essayé de mettre des critères d'identification. L'idée, c'était d'avoir sur ce quartier représentant d'autres problématiques qu'on pourrait retrouver sur l'île et qui soient un peu révélateurs et qui illustrent d'autres problématiques. Donc, j'ai retenu trois critères. Il y avait un critère donc, de densité, vous l'avez dit, qui faisait écho en fait, à d'autres quartiers maorais. Il y avait aussi l'enjeu d'avoir une pluralité de situations sociales et notamment aussi de types d'habitation, avec notamment dans ce quartier des maisons en dur où il y a de l'eau courante et des maisons en tôle avec des habitants qui n'ont pas du tout accès à l'eau, avec des publics maorais. Avec des niveaux de vie moyens et aussi pauvres, et des personnes plutôt d'origine étrangère, plus ou moins en situation régulière, avec des difficultés aussi pour l'accès à l'eau. Et après, il y avait un autre critère, c'était le fait aussi que ce quartier connaisse, au moment en tout cas de ma recherche, un foyer de fièvre typhoïde. Et donc là, il y avait quand même aussi une urgence à agir pour les acteurs de santé. Donc, ce qui a conditionné mon choix, en fait, du quartier.
Alors, dans ce contexte très particulier, difficile, comment avez-vous procédé pour remplir l'objectif de votre recherche et quelle méthode avez-vous mise en œuvre pour trouver des réponses à vos questions?
Alors, j'ai opté pour une triangulation des données, en fait. C'est-à-dire que j'ai utilisé plusieurs outils méthodologiques de la sociologie. J'ai d'abord fait des repérages avec de l'observation flottante pour me familiariser au quartier. Il y avait un enjeu aussi d'intégration pour moi, mais j'y reviendrai plus tard. Et puis, en fait, j'ai d'abord fait une étude un peu statistique pour venir dresser un panorama du quartier. Donc plutôt avec des apports quantitatifs, et puis après j'ai mené une recherche plutôt qualitative, donc en porte à porte à travers des entretiens semi-directifs, donc thématiques, couplés à des observations avec une grille d'observation qui me permettait de systématiser un peu et de pouvoir comparer mes données, que je croisais avec un agent de la Croix-Rouge française qui m'accompagnait aussi. Et après, par la suite, en fait, là, c'était plutôt pour réfléchir à la question des modalités de sensibilisation. J'avais envie de réfléchir avec les riverains à ce qui les impactait le plus, à ce qui semblait le plus pertinent pour eux. Donc là, j'ai organisé plutôt des focus groups voilà, qui ont permis de travailler sur la question de la sensibilisation, mais aussi sur la question de la perception de la maladie, et notamment du sujet qui n'est pas si simple à aborder, des maladies diarrhéiques, des symptômes, de la diarrhée, etc. En groupe, c'est un peu plus simple quand on en parle comme ça et quand on parle des enfants, par exemple.
Alors finalement, racontez-moi comment s'est déroulé votre travail de terrain. Quelles principales difficultés avez-vous rencontrées au cours de votre présence à Mayotte ?
La première difficulté, c'est le contexte de Covid. C'est-à-dire que ma recherche, elle s'est opérée quelques mois en fait avant le confinement. Heureusement que je connaissais déjà Mayotte de par mes travaux de thèse et que j'avais concentré en fait dans les premiers mois de ma recherche mon terrain. Donc j'avais quand même les données. Outre ce contexte difficile du Covid, il y avait autre chose, c'est que Mayotte, moi j'arrive, chercheuse blanche, dans un quartier où il y a une présence assez forte de personnes en situation irrégulière qui sont très méfiantes. Et donc l'enjeu, c'était de pouvoir d'être assimilée comme une personne ressource et non comme quelqu'un faisant partie de la circalie. Alors, le terme circali en maoré, ça désigne les gens d'en haut, ceux qui font partie de l'administration. Mais ça désigne aussi la police, l'armée, la police aux frontières. De sorte que dès que certaines personnes qui sont inconnues au quartier rentrent dans le quartier, on entend siffler et on voit des gens courir pour se cacher. Donc là, tout l'enjeu, c'était de pouvoir me faire intégrer. Donc heureusement que je connais quelques bases de Shibushi, de Shimaoré, et que j'étais aussi accompagnée de la Croix-Rouge française, qui bénéficie d'un bon aura, en fait. Et donc ça m'a quand même pas mal facilité le terrain.
Est-ce que ces conditions de terrain vous ont amené à faire évoluer votre questionnement ou eu un impact sur les objectifs initiaux de votre recherche ?
Alors, il n'y a pas eu d'impact. Par contre, moi, j'étais très alerte sur un point, c'est que comme on était en contexte Covid, il y avait beaucoup de messages sur les gestes d'hygiène, notamment l'utilisation de savon, etc., avec des distributions qui étaient faites en ARS sur les gestes d'hygiène, de sensibilisation. Alors que ce qui relevait de mes premières données intermédiaires de terrain montrait qu'il n'y avait pas de savon à domicile, que l'hygiène était, les gestes d'hygiène étaient entachés par des difficultés d'accès à l'eau. Et donc, j'avais un point de vigilance sur ça parce que je ne voulais pas que les acteurs de santé pensent que, une fois que les messages étaient diffusés et qu'il y avait un petit peu de savon chez les gens, voilà, ça allait impacter à long terme, en fait, leur pratique. Je me méfie de quelque chose, ce que j'appelle moi le pouvoir de l'oubli, c'est-à-dire que ce que j'ai pu observer sur d'autres recherches suite à des catastrophes de tout ordre d'ailleurs, c'est qu'en fait il y a une espèce de fenêtre d'opportunité de 2 à 3 mois qui fait que finalement les gens en fait ils sont prêts à changer leurs pratiques, qui perçoivent leur environnement ou leurs rapports sociaux différemment, mais une fois que ces 2-3 mois sont passés, finalement on revient un peu à un état initial et on oublie, donc ce pouvoir de l'oubli. Donc en fait ça n'a pas vraiment bougé mes objectifs, mais j'étais quand même alerte sur le fait de bien alerter les acteurs de santé à ne pas penser que c'était acquis en fait.
Votre recherche a été menée en collaboration avec de nombreux partenaires. Je les citais précédemment, l'Agence régionale de santé de Mayotte, l'Agence française de développement, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien de la Croix-Rouge française, la PIROI. Globalement, que retenez-vous de votre collaboration avec toutes les parties prenantes de votre recherche ? Et qu'est-ce que ce type de collaboration implique comme changement dans votre travail concret de chercheur, voire dans votre approche de la recherche ?
Moi, je retiens plusieurs enseignements de mon côté. Déjà, je pense que c'était important. En tout cas, moi, ça m'a permis de développer quand même une capacité de traduction et d'intermédiation. Et pour moi, ça implique en fait une approche un peu horizontale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant que chercheur, se positionner un peu comme un distributeur de connaissances dans une posture qui serait descendante. Mais au contraire, en fait, j'ai plutôt opté pour une approche horizontale. Alors concrètement, hein, ça s'est incarné par des groupes de réflexion autour de comités de pilotage qui étaient très suivis et très réguliers. Et puis il y a quelque chose aussi que j'ai compris, c'est que les acteurs de terrain, ils sont experts. Alors, il y a un peu ce fantasme du chercheur qui serait là pour produire des nouvelles connaissances. Ce que je retiens, moi, sur ce travail-là, c'est aussi, en fait, finalement, un peu la force du collectif, parce que, finalement, quand une question, elle est posée de manière claire, on peut avancer facilement et on peut arriver à embarquer, en fait, tous les acteurs. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai proposé aux acteurs que souvent on rencontre, en fait, dans des salles de réunion. Et puis, parce que souvent, ils me disaient « Oh, de tuer nos yeux ». De venir avec moi sur le terrain. Donc, je les ai embarqués dans les quartiers, notamment à Kherson, pour leur montrer ce qui se passait au niveau de la mosquée, au niveau des sources résurgentes. Et en fait, d'incarner les problématiques aussi, ça crée une cohésion et ça fluidifie les échanges. Je pense qu'après, sans le concours aussi de la Croix-Rouge française, avec une équipe qui m'a quand même accompagné, ce travail n'aurait pas été mené. Donc c'est vraiment quand même un travail collectif où je crois que le chercheur doit garder une posture quand même d'humilité, quoi.
Quels sont les principaux résultats de votre recherche ?
Ma recherche, en fait, elle a permis de qualifier la gestion sociale de l'eau, notamment à travers donc la vulnérabilité sociale structurelle que j'ai pu caractériser, en fait, notamment en termes d'accès à l'eau. Ce que j'ai décrit aussi, c'est en termes de perception des risques, la situation particulière en fait de ce quartier qui était un peu excentré, qui était situé dans ce que moi j'ai qualifié une zone tampon en fait, soumise à d'autres risques, et dont finalement le risque lié à la pollution de l'eau et aux maladies hydriques qui en découlaient n'était pas du tout perçu comme étant prioritaire. Je l'ai cité tout à l'heure, mais la question de l'insécurité, par exemple, la difficulté de se déplacer aux bornes fontaines, qui était éloignée de ce quartier, de peur d'être attrapé, conditionner aussi cette hiérarchisation des risques. Un autre résultat aussi, c'était un peu la remise en question de la doctrine de l'Agence régionale de santé en termes de santé communautaire. C'est-à-dire que la santé communautaire, en fait, à Mayotte, en tout cas pour l'Agence régionale de santé, qui lance depuis quelques années maintenant cette politique sanitaire, elle était vue un peu comme des communautés stabilisées, fortes, sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour essayer de réduire les inégalités sociales de santé. Moi, ce que j'ai montré, c'est plutôt le contraire, en fait, et notamment dans le quartier Kherson, c'est que les communautés sont peu formalisées, que finalement, il vaudrait mieux parler de communautés d'usage. Et ça, en fait, ça a entraîné aussi, du coup, une réflexion autour de ce qu'était la santé communautaire chez les acteurs institutionnels, ce qui a donné lieu, par exemple, à un glissement sémantique. On parle maintenant plus de santé de proximité, par exemple.
L'originalité de votre recherche tient effectivement à votre questionnement de la notion de santé communautaire, un concept au succès certain depuis une quinzaine d'années dans le milieu humanitaire, mais dont vous dites qu'il a montré les limites de son opérationnalisation dans certains contextes, comme à Mayotte. À l'heure où il serait envisagé d'élargir ses démarches à l'ensemble du territoire, votre étude montre en effet les freins à la mise en place de démarches en santé communautaire dans les bidonvilles urbains de Mayotte, et vos résultats invitent plutôt à la prudence dans la systématisation de cette politique de santé.
Oui, c'est un peu la particularité aussi de Mayotte, qui est un département français, d'outre-mer français. Donc il y a la question aussi du statut social des individus, avec quand même sur 300 000 habitants, la moitié qui est d'origine étrangère, et sur cette moitié d'origine étrangère, la moitié serait en situation irrégulière. Donc quand on parle de communauté, il faut faire attention aussi à la question du relais communautaire. C'est-à-dire que le relais communautaire, il est exposé aussi au sein de sa communauté, dans une communauté qui fluctue, qui change, comme je le disais, qui n'est pas stabilisé, qui n'est pas si formalisé que ça. Donc, il peut avoir des réticences aussi à jouer ce rôle-là de relais parce que ça peut créer des conflits, il peut être placé en situation de conflit. Et donc, c'est vrai que j'ai voulu alerter en fait les acteurs de santé, parce que le danger, c'est de déléguer un service public à justement des communautés qui ne sont pas suffisamment en capacité de porter cette délégation-là, quoi.
En matière de sensibilisation aussi, votre recherche apporte une évaluation d'outils de diffusion d'informations ignorés des acteurs de santé. Par exemple, les CADIS, les juges musulmans, ainsi que des événements sportifs semblent être perçus, selon vous, par les usagers comme des vecteurs pertinents des messages de prévention. Des friperies organisées par les femmes dans la rue ou le réseau de taxis brousse de Lille pourraient aussi, selon vous, être des lieux privilégiés pour la promotion de la santé et utilisés comme tels.
C'est le terrain qui permet justement de mettre à jour ces potentiels canaux où on peut diffuser des informations. Et c'est là tout l'intérêt d'ailleurs du travail du sociologue, hein, de repérer des endroits informels, de regroupements plus ou moins spontanés, plus ou moins réguliers, mais qui peuvent vraiment servir de support à de la sensibilisation. Donc c'est vrai que la question des friperies, mais il y avait aussi des coiffeuses à domicile par exemple, ou des endroits où les femmes vont laver le linge à la rivière, par exemple, qui sont des endroits ou des lieux et des moments où on va se socialiser, qui permettent des échanges informels, sans aussi le concours d'acteurs de santé avec ce rapport un peu du sachant qui vient répandre un peu les gestes d'hygiène de manière un peu moralisateur. Là, au contraire, c'est des lieux d'échange informel où la parole est plutôt libre et où moi, il me semble que la sensibilisation peut se faire de manière plus fluide. Sur la qualification de la gestion sociale de l'eau, il y a aussi un point important, c'est de s'intéresser aux stratégies d'adaptation des acteurs, en fait. Quand on n'a pas d'eau, comment on fait? Donc, on peut aller aux bornes-fontaines, mais à Kherson, les bornes-fontaines sont loin. Et puis, sinon, on a recours à la rivière ou aux sources résurgentes. Ces sources résurgentes, notamment à Kherson, il y en avait deux, elles étaient contaminées selon l'ARS hein, qui avait réalisé des échantillons, donc il y avait des résultats négatifs en termes de pathogènes. Il y a aussi tout un marché noir de l'eau qui émerge à Mayotte avec de la revente d'eau au bidon. Où du coup le prix de l'eau, il n'est pas fixe et il dépend du bon vouloir du revendeur. Alors souvent c'est sous la forme d'une solidarité, donc le prix de l'eau est assez bas, mais il peut représenter une somme très importante puisqu'il se paye au bidon en fait.
Votre recherche montre par ailleurs qu'en matière de perception des risques, en dépit de ces risques sanitaires, la principale source d'inquiétude des foyers enquêtés demeure l'insécurité. Le quartier de Kherson étant situé en périphérie de la ville et de ses infrastructures, beaucoup de ces foyers n'ont pas accès à l'électricité et craignent l'obscurité qui favorise vol et agression et dont la violence leur semble s'accroître.
Oui, tout à fait, ça c'est un enjeu majeur. Hein. On l'a vu ces derniers temps, malheureusement. La question de la sécurité, c'est la question aussi de l'accès à l'électricité. Quand on est dans une habitation en tôle avec des voies non carrossables, il peut y avoir des raccordements frauduleux à l'électricité, mais la lumière n'est pas toujours là la nuit. Il y a de la question aussi des vols. On est dans un contexte de très forte précarité, hein, donc avec des vols d'opportunités pour des gens qui ont simplement faim, qui veulent se nourrir. Et ça relève aussi, je l'avais vu, parce que à ce moment-là, la Pirois aussi s'intéressait à la gestion des catastrophes et à la façon de faire évacuer les gens dans des moments d'alerte. Et c'est vrai que, par exemple, moi j'avais des riverains qui me disaient, moi je ferais partir mes enfants, je ferais partir ma famille, mais je resterai parce que je veux pas être volé. Donc cette question de ce sentiment d'insécurité, en fait, c'est vrai qu'il vient conditionner aussi la perception des risques en tout genre. Et ça, c'est aussi une alerte, c'est-à-dire que on a notre culture nous fournit une façon de penser le risque qui est souvent bien éloignée de la réalité des habitants. Donc c'est aussi à quoi sert la sociologie, quoi.
Avez-vous restitué vos résultats auprès des multiples acteurs impliqués et avez-vous une idée de la façon dont ils ont été entendus, compris et des éventuels effets auxquels ils ont mené?
Oui, j'ai restitué mes résultats de manière intermédiaire, en fait tout au long de la recherche. Mes résultats, ils ont été questionnés, j'ai envie de dire en permanence en fait, avec l'ensemble des parties prenantes, parce que l'idée pour moi c'est de m'inscrire dans une perspective de recherche-action et de produire des données qui soient mobilisables directement, en fait. Donc, d'où le travail de traduction, de trouver un langage commun, de pas être trop jargonneux. Concrètement, ça s'est traduit par la prise en compte de mes données de recherche, notamment, par exemple, par l'ARS, dans son plan régional de santé environnement, à travers des fiches-actions, hein, donc d'une façon très concrète. Il y a eu aussi des formations, hein, c'est-à-dire que j'ai réalisé une formation en ARS, mais à destination des associations et des ONG qu'elle subventionne, plutôt là sur la posture de l'intervenant quand il rentre dans l'intimité en fait, de l'habitation. Parce que c'était quelque chose qui était pas si, où on avait peu de savoir-faire, en fait. En tout cas, c'est ce qui ressortait des acteurs. Donc voilà, ça donnait lieu aussi de manière très concrète à des formations auprès des ONG, des associations. Et je mène de toute façon toujours la réflexion, en fait, avec les acteurs. Le lien, en fait, c'est pas distendu. Ça se traduit à travers, par exemple, du soutien à des plaidoyers pour l'accès à l'eau pour tous avec Coalition Eau, par exemple. Voilà. Donc, c'est toujours en cours, en fait.
Dans les 10 années à venir, comment projetez-vous votre rôle de chercheur par rapport aux enjeux humanitaires et sociaux liés à vos recherches ?
Je pense qu'on a tout intérêt, chercheur académique, à s'investir dans la question de comment penser l'urgence, par exemple, et à sortir un peu de notre citadelle ou de notre tour d'ivoire. Moi, j'aimerais bien que le monde de l'humanitaire et le monde de la recherche, en fait, s'hybrident encore plus et s'acculture encore plus. Et je pense aussi que le chercheur doit sortir dans la cité, apprendre à communiquer, parce qu'on ne sait pas forcément bien le faire. Et ça passe par apprendre à être lanceur d'alerte, s'impliquer beaucoup plus dans des plaidoyers, par exemple, documenter ce travail de terrain qu'on fait et documenter les éléments de langage que l'on peut trouver pour trouver un langage commun justement pour appuyer les acteurs. Et ça passe aussi par être impliqué du coup dès le départ sur les questions que se posent les acteurs humanitaires en fait, pour ne pas se positionner juste en réponse, mais être déjà en amont en fait de la réflexion. Je pense que c'est deux mondes qui peuvent se nourrir l'un de l'autre.
Aude Sturma, merci.
Merci à vous.
C'était Enquête d'humanité, la série de podcasts de la Fondation Croix-Rouge française, présentée par Vincent Léger. Retrouvez cet épisode et ceux déjà diffusés sur Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, ainsi que sur les réseaux sociaux de la Fondation. Ce podcast vous a plu ? Alors n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt !